Émission On en jase, Boulevard 101, ton émission d'actualité du midi. C'est de midi à 14h. Ça suit à chaque jour, du lundi au vendredi. Le point de Max avec Max Larouche. Et ça précède le retour de Gravel avec Denis, Véro et Audrey. On vous remercie grandement d'être à l'écoute. On a bien du plaisir à faire ce show et à vous informer. 418-971-1021. C'est un fun qu'on a aussi de lire vos textos et de réagir avec vous. 418-780-1021, c'est le numéro pour nous joindre en studio. Tout à l'heure, il va venir faire son tour. Mathias Turcotte, on l'a envoyé, Pascal Cévin, une conférence de presse sur le système de la santé qui change encore. Là, Mathias, je le regarde, là, c'est comme s'il y avait le cerveau éteint. Tellement, il a fallu qu'ils comprennent cette structure, nouvelle structure, retour à une structure de CLSC. Il ne sait plus qu'est-ce qu'il a compris. Va essayer de venir tout nous expliquer ça. Faites-vous en pas. Après ça, on va voir le doc Pascal Renault qui, lui, va être capable de nous expliquer la structure dans structure qui est dans l'autre structure. Parce que là.
Il va tenter de nous la vulgariser, mais moi, j'ai hâte aussi de savoir s'il la comprend bien et il pense que ça va fonctionner.
Bien, c'est ça, parce c'est que ça, là, t'sais. On a le ministère de la Santé qui est une structure. Ouais. Dans cette structure-là, on a Santé Québec. Dans Santé Québec, on a une autre structure qui est le CIUS. Puis là, bien, on déterre comme en 94-95 avec la réforme Rochon, une réforme qui a super bien fonctionné dans le domaine de la santé. C'est depuis ce temps-là qu'on est en marde. Bien là, on redéterre les CLSC. Fait qu'on rajoute encore cette structure-là. Puis là, on a déjà la structure des GMF. Les cliniques de médecins de famille. Puis là, après ça, hein, on a le patient. Puis on se demande comment ça, le système de santé coûte cher.
Mais attends, peut-être que ça va fonctionner. Puis peut-être que ça va permettre de désengorger certains endroits parce que c'est ça l'annonce
d'aujourd'hui.
C'est effectivement le grand retour de la mission des CLSC territoriaux. C'est ce qu'a appris le bureau parlementaire du Journal de Québec. On veut instaurer ce nouveau modèle d'affiliation-là territoriale pour le patient qui sera attaché aux CLSC. Ça veut dire qu'on veut rapprocher les soins et leur gestion des lieux de résidence. Ce qu'on avait un petit peu, moins bien géré dans les dernières années. Ouais. Notamment, on veut le déploiement de la plateforme Votre Santé. C'est là que ça vient mêlant. C'est une nouvelle plateforme encore. Je pense que pour les gens issus
on avait...
là, okay, la structure
de
santé,
ici,
c'est plus...
OK, on a le guichet d'accès première ligne, le GAP. Là, on va avoir Votre Santé?
Votre Santé.
Votre Santé.
Application, puis ça doit offrir un accès
qui est... Ça, c'est fait par le gouvernement. Ça va toujours bien quand le gouvernement se lance dans le numérique.
Là-dessus,
moi, on dit que je suis cynique à midi.
Mais ça serait au bout de nos doigts qu'on serait capable d'avoir de l'information puis essayer de prendre des soins puis des services là, en termes de rendez-vous. Mais à suivre.
On va tout avoir les explications tantôt de Mathias, qui est en train de démêler ça dans son cerveau. Tu es un étudiant encore à l'Université Laval, devrait être capable de démêler tout ça. Il est encore cognitivement très allumé. Plus que moi qui est rendu à 46 ans.
Arrête ça, faut entretenir ça. Hein. Peu importe les études ou pas, moi je te l'ai toujours dit, mon beau-frère c'est une des personnes les plus brillantes et connaisseuses que je connaisse, moi. Mm-hmm. Puis c'est pas parce qu'il a fait de longues études, c'est parce qu'il est curieux.
Ouais. Julie nous écrit et continue à réagir au 418-971-101. Hey, pourquoi avoir fait sauter si elle essaie si c'était pour les ramener? Bonne question. BLVD.fm, c'est la web radio. BLVD 101, c'est notre application sur App Store, Google Play Store. Haut-parleur intelligent, vous dites écoutez BLVD, on arrive dans vos oreilles. Twitch.tv/BLVD/FM pour venir voir nos belles faces en studio. Et abonnez-vous à notre page YouTube. On a des bons moments qui s'y retrouvent de tous nos shows de notre programmation que je vous ai mentionné à chaque jour. Pascal, on vient de parler de cette annonce-là, ce retour en arrière. Ce « Back to the future » en 1994-95 en santé. Sinon, dans l'actualité, qu'est-ce qu'il y a à suivre avant qu'on parle à nos amis Farnell et Lambert?
Bien, ça, c'est sorti quand même du côté du Journal de Québec, puis ça me tente de faire la lumière dessus, c'est les ados qui vapotent. Hein. Mmh! On a eu des données qui sont alarmantes. Les ados qui peuvent inhaler jusqu'à 5 paquets de cigarettes par jour en nicotine juste avec le réflexe de porter la vapoteuse à leurs lèvres.
Ça n'a aucun sens.
Alors, il y a des experts qui ont peur de ça, qui craignent cette nouvelle génération de fumeurs-là, qui sont dépendants à la nicotine, parce que oui, il y a cette dépendance-là. Et en plus, ben, les jeunes sont moins actifs qu'avant. Fait que là, ils font des corrélations, puis ils disent « Wow, là, ça se peut que ça soit vraiment problématique. » C'est un long dossier que le Journal de Québec a offert. Il y a une loi. La loi fixe désormais à 20 mg par millilitres la quantité de nicotine dans les capsules de liquide à vapotage. Là. Puis ça, c'est environ un paquet de cigarettes par capsule. Mais il y en a qui y passent rapidement. Puis malheureusement, bien, ça se vend partout. La vapoteuse peut avoir l'air d'un surligneur, peut être dans l'étui à crayon. Tu sais, il y en a là, qui ne reculent pas devant la créativité pour pas que ça paraisse que ce soit une vapoteuse. Ça crée beaucoup de problématiques.
418-971-101, je veux vous entendre là-dessus. Je veux surtout vous lire, là, parce que c'est par texto. Avez-vous des ados à maison? Il y en a-tu qui vapotent? Ça vous fait-tu peur? Moi, je suis très content que mes gars soient accrochés au sport parce que je pense que ça les éloigne justement de ça. Mais sinon, si c'était pas des petits sportifs, j'aurais vraiment peur parce que c'est tellement facile d'accès.
Puis rappelle-toi, au début, quand les vapoteurs sont arrivés, plusieurs qui disaient « Ah, ça va aider pour ceux qui veulent arrêter la cigarette. Hein? » Ouais. Ça va être comme la transition. Avant, t'avais la grosse patch
ben
qui colle
sur
ton corps. Ou encore la gomme. Puis là, on était avec la vapoteuse.
Un de mes chums qui fumait, puis là, il avait sa patch, mais quand il sortait d'un bar, il enlevait sa patch, il se remettait à fumer. Ça avait pas de sens.
Mais c'est un peu ça, finalement. Ça crée aussi des dépendances. C'est le nouvel objet cool là, dans les dernières années. Puis il y en a qui l'avaient vu venir, mais oui, c'est aussi nocif pour les poumons que la cigarette. Les dépouilles des deux pilotes d'Air Canada décédés dimanche dans une collision sur une piste de l'aéroport à LaGuardia à New York, ben, ont été rapatriés au Canada. Le cercueil du copilote Mackenzie Gunter qui a été accueilli à Ottawa, puis celui du Québécois Antoine Forêt aussi qui a été transféré vers Montréal. Ce sont des heures assez difficiles. Je pense que tout le monde est encore très bousculé par ça. À Montréal, Trudeau, il y a des centaines de pilotes et membres du personnel qui ont rendu hommage en bord de piste. C'était très touchant à voir. L'ex-maire de Laval, Gilles Vaillancourt, qui revient dans l'actualité parce que là, il poursuit la ville pour des millions de dollars. Mais on ne sait pas grand-chose, Jeff. On a essayé de parler au maire actuel de Laval. On a eu une prise de parole qui nous a été donnée par son attaché de presse. On va aller parler de ça en profondeur plus tard, mais en gros, c'est une couche d'indécence qui s'ajoute à ce dossier profondément choquant pour les Lavallois. Mm-hmm. C'est une partie de la communication qu'on a reçue.
On avait déjà fait une entrevue avec Stéphane Boyer. À ce moment-là, on expliquait qu'il devait faire un chèque d'un million de dollars à Gilles Vaillancourt pour qu'il paye des impôts au gouvernement fédéral. Ça avait fait la manchette, ça avait vraiment fait couler beaucoup d'encre. Et le gouvernement fédéral s'était positionné en disant « Non, on va faire comme le Québec. Québec, on n'exigera pas à M. Vaillancourt son paiement d'impôts. C'est de l'argent qui va rester à Laval. » On le rappelle, c'est 5 millions de dollars que le maire Vaillancourt a volé aux citoyens de Laval. On a réussi à remettre la main sur ces 5 millions-là. Et là, on l'investit dans des organismes à but non lucratif.
Quand même, façon intéressante de gérer.
Fait que ça me tente pas que Vaillancourt ait une coupe de millions dans ses poches. Ça me tente que ça reste dans les organismes.
Non, puis la presse en parlait, là, le média. Là, on précise que seuls 13 des 39 paragraphes qui sont partiellement lisibles. Donc, c'est très difficile de comprendre les doléances de Vaillancourt. Puis, il semble pas être très gêné de ses doléances. Cet homme-là, il veut juste pas que ça se ramasse dans les médias, on dirait.
Je félicite Audrey par texto. J'ai arrêté de fumer la cigarette. Ça fait 6 ans et demi. La vapoteuse a été ma béquille. Mais j'ai réussi à arrêter, voilà, 2 ans. Good job, Audrey.
Oui, très, très. Très, très bon. En tout cas, c'est difficile. Hein? Moi, j'en connais autour de moi qu'ils ont essayé 36 fois.
Ah oui.
Ils sont retombés.
C'est vraiment, vraiment, vraiment.
Je pense que ça lié avec le stress, puis c'est drôle, on a plein de stress maintenant.
C'est ça.
Hey, je termine avec ça, puis on fera un bulletin complet plus tard. Mais l'Iran qui défie Trump, surprise. Maintenant, on exhorte les civils du Moyen-Orient à s'éloigner des Américains. Pourquoi? Ben, ils seront ciblés, là. Clairement, on a appelé aujourd'hui les civils à se tenir à l'écart des forces américaines au Moyen-Orient. Ça accentue les menaces face à Israël et Washington. Moins d'un mois d'une guerre qui déstabilise l'économie mondiale. Mais là, clairement, il y a encore des attaques à prévoir parce que ça n'arrive pas à ce que Donald Trump veut. Il négocie pas avec l'Iran. Clairement, il négocie seul, même s'il veut nous faire comprendre le contraire. Et les lâches forces américano-israéliennes, c'est comme ça que décrivent les forces américano-israéliennes l'Iran, tentent d'utiliser des sites civils et des innocents comme boucliers humains. Fait qu'on est en train même de monter la population iranienne contre les Américains et les Israéliens.
Éric Ouellet, notre spécialiste en conflit militaire, sera avec nous aux alentours de 13h10, 13h15 pour parler de ceci. Du lundi au jeudi à l'émission On en jase, c'est le caucus avec Antonine Niaccarini. Et le vendredi, c'est le segment discussion avec Farnell Morisset et Lambert Drainville. Messieurs, comment allez-vous?
Ah, ça va bien, ça va bien. Il fait beau, il fait. Comment ça fait ça?
C'est vrai. Hein? Lambert, quelle est la température dans le coin de Montréal?
Excessivement beau. C'est, ça fait vraiment du bien.
Ah oui, 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 oui. Après toute la neige qu'on a eue cette semaine, le verglas, etc., ça fait du bien le soleil. Farnell, tu es un spécialiste juridique?
Je suis avocat membre du barreau de New York, oui.
Et voilà, avocat membre du barreau de New York. Et là, dans les médias, c'est ressorti en trompe là, dans la dernière heure, les fameux délits d'initié autour de Donald Trump, parce que un peu avant qu'il fasse des annonces que je vais aller attaquer l'Iran, je négocie avec l'Iran, il y a des gens qui transigent des actions puis qui font beaucoup d'argent. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un délit d'initié?
rapidement, un délit d'initié, puis là, je vais parler en termes juridiques des États-Unis parce que c'est ça les lois qui s'appliquent ici, là. C'est quand quelqu'un qui est en possession de, le terme exact, c'est « material non-public information », c'est-à-dire de l'information matérielle qui n'est non publique. Mm-hmm. Donc, de l'information qui pourrait avoir un impact sur les prix des choses qui sont transigées dans les marchés et qui n'est pas disponible au public encore. Quelqu'un qui est en possession de cette information-là et qui fait des transactions financières, qui fait des transactions dans des achats d'actions ou d'obligations, ce genre de choses-là, avant que l'information devienne publique, dans le but de s'enrichir, ça, c'est un délit d'initié et c'est illégal, c'est un crime.
Genre, une compagnie va super bien, elle commence à pas bien aller, quelqu'un est au courant, ouais, décide de vendre ses actions quand ça va super bien parce que dans les prochains mois, ça risque de crasher. Ce serait un délit d'initié?
Ça, ce serait un type de délit d'initié. Il y a un encadrement très strict autour de, par exemple, les PDG ou les cadres de grandes compagnies qui ont accès régulièrement à cette information-là quand ils ont droit de vendre ou acheter des actions de leur compagnie ou de leurs compétiteurs parce que potentiellement, justement, ils ont constamment accès à ce genre d'informations-là.
Genre un politicien qui va donner un projet à une entreprise quelconque dans les prochaines années ou prochains mois, puis qui décide de mettre et d'acheter à titre personnel des actions dans cette entreprise-là qui va prendre de la valeur, ce serait aussi un autre genre de
oui,
délit d'initié.
Et c'est un énorme fléau aux États-Unis. Je veux dire, surtout les sénateurs et les gens du Congrès qui, eux, ont le droit aux États-Unis de transiger dans des actions individuelles, là, chose qu'au Canada, c'est pas permis aux politiciens. Ce qui veut dire que potentiellement, par exemple, il y a des élus qui sont sur des comités de la défense qui vont savoir, bon, ben est-ce qu'on va donner un contrat à telle compagnie ou telle compagnie qui, ayant accès à cette information-là, eux, parce qu'ils sont des politiciens, ont le droit d'agir là-dessus tant qu'ils dévoilent en dedans de 4 jours c'est quoi qu'ils ont fait comme transaction. On s'entend qu'en 4 jours la bourse va bouger beaucoup, là. Alors ça, c'est un énorme problème aux États-Unis, ça attire énormément de critiques, mais ce qui se passe présentement, c'est que ça semble de plus en plus risqué qu'il y a des gens à l'intérieur de l'administration Trump qui ont accès privilégié aux décisions un peu erratiques de M. Trump, qui vont faire bouger les marchés et qui peuvent potentiellement agir, prendre des positions qui vont être avantagées par les décisions qui vont sortir quelques minutes avant. Puis là-dessus, je veux prendre un petit 2 secondes parce que je me souviens, il y a à peu près un an, j'étais aux ondes de la station Sœur, week-end, juste de l'autre bord. Et puis, c'était le jour où les fameux tarifs étaient supposés être imposés au Canada, oui, au Mexique, la première journée. Puis j'étais en ondes le moment même, juste avant que Donald Trump annonce un sursis de 30 jours. Et puis j'ai dit, ah, je pense qu'on va avoir le sursis de 30 jours parce que moi, pendant que tout le monde regardait les annonces de Truth Social, moi, je regardais la bourse. Mm. Puis à la bourse, les prix futurs en aluminium, en pétrole et en bois venaient de chuter, ce qui donnait l'indication qu'il y avait des gens qui savaient que ça, c'est les exportations primaires du Canada vers les États-Unis, qu'il allait continuer à en avoir à bas prix parce qu'il n'y aurait pas de tarifs. Alors, les prix ont tombé. 5 minutes avant que l'annonce soit officielle, imagine, les marchés le savaient. Il y a des fortunes qui se sont faites avec ça.
C'est ce qui s'est produit avec l'Iran aussi, là, 4 minutes avant le discours de Trump pour dire « on négociait avec l'Iran, hop, il y a eu plein de transactions au niveau des actions des compagnies pétrolières ».
Et c'est le genre de choses qui mine énormément la confiance du public dans et le politique et les institutions financières, puisque je dis toujours aux gens, c'est si vous pensez que vous pouvez faire fortune en faisant du day trading, en échangeant, en étant très actif à la bourse, en essayant de prévoir comment les actions vont bouger d'un bord ou de l'autre, là, vous êtes en compétition avec ces gens-là, puis eux autres vont toujours gagner.
Les démocrates commencent à mettre énormément de pression. Est-ce qu'il va falloir attendre après les élections de mi-mandat si Trump perd une ou les deux chambres pour un déclenchement d'enquête publique? Ça se peut-tu ou on va tolérer ça parce qu'on est plus lousse aux États-Unis?
C'est le genre de situation qui va juste éclabousser tout le monde s'ils font une enquête publique. Il y a de la boue à lancer partout.
Personne qui veut d'enquête publique.
Malheureusement, je veux dire, c'est un énorme problème et je crois pas que la conjoncture politique actuelle est capable de gérer ça aux États-Unis.
Un système corrompu, Pascal, qui veut pas se corriger.
Ben, moi, ce qui me surprend le plus là-dedans, c'est que Donald Trump s'est fait élire en plaidant qu'il est là pour le peuple puis qu'il voulait pas, encore une fois, que le peuple se sente trahi économiquement puis se fasse avoir et tout ça. Il commence à flipper dans une autre façon de faire, mais qui résonne comme étant « on profite de vous aussi ». Là.
Il y a beaucoup de façons. En tout cas, je veux pas aller jusqu'à accuser qui que ce soit comme ça, parce que c'est quand même criminel puis j'ai pas de preuves. Là. Mais je veux dire, il y a ça.
Dans les spéculations.
Il y a tu sais, Donald Trump qui a aussi lancé sa crypto-monnaie qui a explosé en valeur depuis qu'il est à la présidence. Il y a tellement de choses vraiment, vraiment bizarres là-dessus. Mais malheureusement, la conjoncture politique n'est pas facile.
Exactement. On revient plus près de chez nous et on parle de loi sur la laïcité. C'était 4 jours d'audience devant la Cour suprême. On écoute ce que Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, en pense.
Et c'est la différence québécoise qui ne peut plus s'exprimer démocratiquement lorsque le régime fédéral, par son parlement, dans le cadre duquel on a juste 20% des voix, ou les tribunaux fédéraux, qui sont des nominations de ce régime-là, renverse notre volonté démocratique dans un vrai parlement qui a fait son travail. C'est pas comme si on n'a pas débattu de laïcité au cours des 15 dernières années.
En effet, il a totalement raison. Lambert Drainville, je te pose la question, puis je vais mettre en contexte justement nos deux sujets qu'on va discuter, c'est-à-dire loi sur la laïcité et le français boiteux de Michael Rousseau. C'est une semaine parfaite pour le PQ, crime. Deux chicanes avec le Canada anglais. On demandait pas mieux pour relancer le parti.
Ben, le parti est encore premier dans les intentions de vote.
Ouais, mais ça diminuait là, au niveau des intentions.
Ouais, j'ai hâte de voir bien honnêtement l'impact de ça sur la conjoncture politique québécoise à court terme. Je pense qu'elle n'aura pas d'impact jusqu'à temps qu'on ait un véritable jugement sur cette question-là. Et les chances sont très, très minces qu'on aura un jugement sur cette affaire-là d'ici à l'élection d'octobre.
Tu vois-tu, hey, je t'arrête deux secondes. Tu vois-tu un complot là-dedans qu'on ne l'ait pas? Le jugement avant les élections que le vote nationaliste.
Non, je pense que c'est une des décisions les plus importantes depuis certainement le rapatriement de la Constitution, mais peut-être de l'histoire de la Confédération canadienne. C'est rappel historique là, de comment ça a été mis en place en 1981, en 1982, c'est un compromis, dans le fond. C'est un compromis où Pierre-Éliott Trudeau, à l'époque, souhaitait rapatrier la Constitution et insérer la Charte des droits et libertés canadiennes. Et plusieurs provinces étaient contre ce rapatriement-là et contre cette charte-là qu'ils jugeaient, et le Québec en faisait partie, mais plusieurs autres provinces aussi, elles étaient du nombre de 8 à être contre cette charte-là qui disait aller empiéter sur leur propre pouvoir. Et cette clause de dérogation, la clause de souveraineté parlementaire, a été le compromis qui a permis à Pierre-Éliott Trudeau et son gouvernement de convaincre toutes ces provinces-là, sauf le Québec, évidemment, qui n'a jamais signé la Constitution canadienne, de se ranger de son côté et d'accepter que, bon, ben, avec cette clause-là, dorénavant, les provinces, dans certains cas, auront le dernier mot. Et donc, les gens qui sont dûment élus par le peuple, dans certains cas, auront le dernier mot sur les tribunaux. Et on en est là aujourd'hui. Et là, c'est un petit peu cette décision-là de la Cour suprême. Elle est immensément importante parce que s'il advenait qu'on change ce qui est jusqu'à maintenant la jurisprudence sur cette question-là, c'est-à-dire ben on invoque la clause dérogatoire et les tribunaux, vous n'avez rien à dire pendant 5 ans, eh bien, on viendrait essentiellement changer le compromis dont je parle, qui est à la base même du texte fondamental qui régit nos droits et libertés ici au Canada. Alors, c'est une décision d'une importance capitale et un changement à ce niveau-là entraînerait des conséquences quand même majeures. Et certainement une réaction à ce moment-là politique au Québec qui dont la mesure demeure à déterminer, mais qui serait certainement très grande.
Fardel, t'es en accord?
Je suis en accord que c'est une décision importante. Je pense pas que ça va aussi loin que Lambert le présente. Parce que tu sais, quand ça a commencé là, en septembre de l'année passée, j'étais allé lire la position du gouvernement fédéral. Puis j'étais allé lire le mémoire qu'ils ont déposé à la Cour suprême. Puis quand je vois aujourd'hui la CAQ et le Parti québécois le Parti québécois qui disait c'est le procès du Québec au grand complet, je pense que ça, c'est un monté en épingle. Qu'est-ce qui se passe pour de vrai là? La position du gouvernement fédéral là-dessus, d'abord, le gouvernement fédéral ne s'oppose pas à la loi 21, se prononce pas sur la loi 21, il dit pas la loi 21 est correcte, pas correcte. Il y a rien là-dedans. Parce que la position du gouvernement fédéral, c'est de dire d'abord deux choses. Première chose, que si une province ou même potentiellement le gouvernement fédéral peut utiliser la clause dérogatoire pendant tellement longtemps que ça a l'effet d'anéantir un droit fondamental, c'est pas ça l'intention de la clause dérogatoire qui est supposée être limitée et doit être renouvelée tous les 5 ans. Alors, par exemple, la clause dérogatoire permettrait la censure des journaux si jamais un gouvernement provincial ou fédéral voudrait faire ça. Si tu fais la censure des journaux pendant 5 ans, on s'entend que la culture journalistique continue à exister. 5 ans plus tard, les journaux peuvent se rétablir. Mais si tu fais de la censure des journaux pendant 50 ans, le renouvelant à tous les 5 ans, ben la culture même, la capacité institutionnelle d'avoir un journalisme impartial cesse d'exister parce que la mémoire institutionnelle n'existe plus. Alors, la première position du gouvernement fédéral, c'est de dire renouveler une clause dérogatoire tellement longtemps qu'elle a un effet permanent sur la culture, sur la société, c'est contraire aux objectifs. Ça, je pense que c'est un argument plutôt difficile à tenir. J'ai comme de la misère à croire que la Cour suprême va pencher dans cette direction-là. La deuxième chose que le gouvernement fédéral demande, c'est de dire que oui, quand un Parlement, que ce soit une Assemblée nationale ou autre, invoque la clause dérogatoire, les juges ne peuvent pas prendre de décision en fonction des droits fondamentaux, mais ça ne devrait pas empêcher les juges de donner c'est quoi leur avis. Alors même si cet avis-là n'a pas d'effet légal, au moins, les juges vont pouvoir dire, ben, si c'était pas de la clause dérogatoire, voici comment on jugerait, voici ce serait quoi notre décision. Et puis ça, ben, je pense que c'est quand même pas une mauvaise idée parce que ça veut dire que quand va venir le temps de débattre dans les assemblées législatives, dans l'Assemblée nationale, si on veut renouveler la clause dérogatoire ou pas, ben, nous, en tant qu'électeurs et les politiciens, vont avoir plus d'informations. Ils vont savoir, si on renouvelle pas la clause dérogatoire, voici la décision que la Cour suprême nous a déjà dit qu'elle allait prendre. Alors, on peut prendre notre décision en pleine connaissance de clause. Ça nous donne plus d'informations. Ça, je pense que c'est pas nécessairement une mauvaise idée, surtout que c'est pas écrit dans la charte nulle part que les juges n'ont pas le droit de donner une opinion, ça s'appelle, le terme technique, c'est une opinion obitaire, c'est-à-dire une opinion en passant, une opinion qui n'a pas d'impact légal, mais qui fait partie de l'opinion générale.
Qui amène à faire réfléchir.
Qui amène à faire réfléchir, c'est ça, qui est là pour informer le public. Il n'y a rien qui empêche ça de faire. Alors, l'idée que les juges ne peuvent même pas donner d'opinion là-dessus, ça se trouve pas dans la charte elle-même. Ça, c'est un développement de jurisprudence. Et je pense qu'en tant qu'électeur, moi, j'aimerais savoir comment est-ce que les juges vont statuer sur une décision avant que je donne mon vote à un gouvernement qui promet de renouveler ou pas renouveler une clause dérogatoire.
Parce que tu vas avoir le contre-pouvoir, justement, l'opinion de ce contre-pouvoir-là qui est le pouvoir juridique.
Oui, surtout que la CAQ est en train de proposer dans son projet de constitution une espèce de conseil constitutionnel qui aurait exactement ce même rôle-là. Alors, on reconnaît que c'est utile à l'avoir. Ayons-le de la source qui va avoir la décision finale sur le tribunal, qui est le tribunal lui-même.
Est-ce que dans ce type de débat, on pousse des fois on pousse justement l'analogie un peu trop loin, puis je vous fais entendre Maître Frédéric Bérard, qui est l'avocat de la Fédération autonome d'enseignement, la FAE, qui craint l'arrivée d'un mini-Trump.
On est à un carrefour ici, actuellement au Canada, en matière de démocratie constitutionnelle. Si jamais il y avait un mini-Trump au Canada, tout ce qui se passe aux États-Unis, ou à peu près, pourrait se passer ici de manière parfaitement constitutionnelle, du fait de l'usage actuel et de la pratique des dispositions dérogatoires.
On fait-tu trop un plat avec Donald Trump par rapport justement au personnage qu'il est et aux craintes qu'on aurait de voir un Donald Trump arriver au Québec, Farnell, en premier?
Ouais, une chose importante d'abord, c'est que ce genre de plaidoirie-là, ça dure souvent 20 minutes, une demi-heure, des fois même une heure, puis sortir juste un extrait hors contexte comme les médias aiment faire pour faire du choc, c'est un mauvais service au public. Mais je pense que ce que M. Bérard est en train de dire, puis là-dessus, je veux dire, sans... La difficulté, c'est dès que tu parles de Trump, les gens perdent un peu la tête.
Ouais.
Mais ce qu'il dit fondamentalement, c'est que le Canada et le Québec, par notre ordre constitutionnel, on n'est pas à l'abri d'une prise de pouvoir par un premier ministre qui arrive avec un mouvement populiste derrière lui. Oublions pas, là, le gouvernement actuel qui a une majorité, donc qui a à toute fin pratique dans une culture actuelle le pouvoir total sur l'Assemblée nationale, a été élu avec 27 % des électeurs inscrits. Alors, c'est possible qu'un mouvement populiste qui n'a pas l'appui de la majorité, bien loin de ça, arrive à avoir un contrôle total sur l'exécutif, le législatif, sur nos lois. Et dans ce cas-là, si un tel mouvement populiste-là venait à arriver, il y aurait très peu de barrières qui l'empêchent de faire à peu près n'importe quoi. C'est ça le point, je pense, que M. Bérard est en train de faire. Est-ce que l'allusion à mini-Trump était mal placée? C'est sûr que ça spinne mal dans les médias, mais encore une fois, les avocats qui plaident à la Cour suprême ne sont pas en train de chercher une clip de 30 secondes pour passer dans les médias.
Je comprends, là.
Et je trouve ça... C'est pas pour rien que, justement, normalement, par exemple, ce genre d'audience-là n'est pas public, ou au moins, est pas, c'est public, mais n'est pas diffusé par les canaux. Parce que
c'est contraire à notre culture médiatique actuelle de chercher la clip de 30 secondes qui choque. Il faut voir ça dans son ensemble de son argumentaire.
Non, je comprends très bien.
C'est
ça bien nous mettre en garde, en effet. Lambert, t'en penses quoi, toi? Est-ce qu'on va encore pousser un petit peu plus loin pour être à l'encontre de cette loi, cette loi sur la laïcité au Québec?
Tu sais, on est dans un système quand même qui fonctionne quand même de façon... On est dans une société, puis il y a un système qui est à plusieurs niveaux très différent de celui dans lequel nos voisins du Sud fonctionnent. Et on a démontré... Écoutez, regardons juste les derniers mois, tu sais, Farnell parle de la Constitution, puis il y a plusieurs acteurs de la société qui se sont prononcés sur les risques... disons, d'effritement de la démocratie avec ces différents projets de loi-là. Ces contre-pouvoirs-là se sont exprimés, ont été entendus. Le mécontentement de la population également. Le ministre Simon-Jolin Barrette a même reculé sur la clause par rapport à l'avortement. Puis on l'a vu tellement souvent sur des décisions qui ont été prises par la CAQ où ils ont reculé suivant une montée de colère populaire. Que, tu sais, je comprends l'argument, puis est-ce que c'est absolument impossible qu'un jour, peut-être, ça arrivera, mais de faire la comparaison comme si on vivait dans le même type de société, dans le même type de système, je trouve que c'est pousser la note très loin. Et bien honnêtement, il y a des contre-pouvoirs au Québec. Les juges se sont exprimés à plusieurs niveaux et à plusieurs niveaux juridiques sur le bien fondé de la loi 21. C'est pas la même situation. Et la parole de la population, l'opinion des gens, ça, elle est prise en compte par les gens qui nous gouvernent. Et on en a de multiples exemples. Pensons au financement au niveau de l'éducation sur lequel le gouvernement a reculé. Il y a des exemples sans cesse. Alors de dire, bien, on va complètement changer le... Comment je dirais bien ça?
Le fonctionnement du gouvernement.
Ouais, le compromis qu'on s'est donné historiquement au Canada, qu'on va changer ce compromis-là et la jurisprudence qui vient avec, sur la base de peut-être qu'un jour, à un certain moment donné, il y aura une situation similaire à ce qu'on vit au Sud, alors que le système est complètement différent, et qu'à ce moment-là, la pression populaire et tous les contre-pouvoirs, soudainement, là, ne pourront plus faire leur travail et seront complètement mis de côté, et que là, peut-être, ça ira tellement loin qu'on ne pourra plus agir. Je trouve que c'est pousser la note beaucoup trop loin, bien honnêtement.
Quand tu dis qu'on change complètement la jurisprudence, je veux dire, moi, est-ce que je regarde la position du gouvernement fédéral puis des autres intervenants, je ne vois pas un si gros changement fondamental que ça. Qu'est-ce que tu veux dire par ça?
En fait, ça dépend de la décision, Farnell.
Oui, mais je veux dire, si on regarde, par exemple, la position du gouvernement fédéral ou la position des autres intervenants gouvernementaux, là, je les vois pas demander qu'on mette au rencard l'ensemble de la clause dérogatoire. Ils prennent pas position pour dire que les gouvernements ne peuvent pas l'évoquer. Je vois pas un énorme changement proposé par les partis adverses, mettons.
Bien, encore une fois, ça dépendra de la position... De la décision qui est rendue éventuellement par la Cour suprême, mais même de dire on va laisser les tribunaux se prononcer en matière de droits individuels, alors que je trouve que dans ce débat-là, on parle beaucoup de droits individuels, je me fais la réflexion qu'on ne parle pas souvent de droits collectifs.
Les droits collectifs sont garantis par le fait que c'est la majorité qui tranche. Les droits collectifs sont rarement vraiment à risque dans une société démocratique.
Oui, peut-être, mais dans le sens, je pense que de dire, de simplement dire, on va laisser les tribunaux se prononcer sur une décision en disant, ça n'aura aucun impact sur le débat, ça n'aura aucun impact sur l'aspect politique de la chose, tu sais. L'arrêt Ford à 88 disait, ils n'ont pas le droit de se prononcer pour une durée de 5 ans. Et si le peuple le veut bien, c'est-à-dire si le peuple vote pour réélire un gouvernement qui dit, nous autres, on va la relancer, cette clause de protection-là, ce sera le peuple qui aura le dernier mot, encore une fois.
Mais tu voudrais pas, en tant que membre du peuple, savoir comment les juges vont trancher? Je veux dire, c'est juste ça qu'on propose. C'est que les juges peuvent dire, si c'était pas de la clause dérogatoire, voici ce serait quoi notre décision. Mais on respecte la clause dérogatoire et puis on va pas appliquer cette décision-là. Moi, en tant qu'électeur, je veux avoir cette information-là.
De dire que ça n'aura aucun impact sur le débat politique, de dire du moment que les juges se prononcent sur ben voici notre opinion, puis quel droit et liberté on juge sont brimés, c'est faux de dire que ben ça dresse un portrait complètement objectif et on prend une décision là-dessus. Je veux dire, dans la société dans laquelle on vit, du moment que le droit d'une minorité est mis, disons, recule un minimum versus les droits collectifs que l'on a en tant que société, c'est très difficile pour un gouvernement de défendre ça, et on se rend compte que le narratif public puis les médias se mettent dans embarquent dans le lot et commencent à prendre le parti des minorités. Ça devient très difficile après ça pour ceux qui sont juste en train de dire ben moi je pense qu'on a choisi un modèle au Québec qu'on devrait le maintenir, de défendre ce point-là, alors que c'est comme si le narratif populaire puis le narratif médiatique venait constamment prendre le bord des droits individuels sur lesquels la Cour suprême se serait prononcée. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, là, mais
non, ça a un impact. Je le résume tout simplement, c'est qu'on a élu des politiciens pour qu'ils prennent des décisions en fonction justement de la démocratie, mais à l'ensemble de la province, en tenant compte de la majorité. Et ta crainte, Lambert, c'est de dire si on se fie toujours à la Cour qui prend des décisions pour des droits individuels, ben à un moment donné, il n'y aura plus de cohésion dans la société.
Oui, puis c'est comme de dire, du moment que les juges vont se prononcer, c'est comme si on venait dire, ben voici qui sont les bons et qui sont les méchants. Je ne sais pas si c'est peut-être un peu, j'arrondis peut-être les coins, mais c'est un petit peu ça, comme ça que je le vois. Du moment que les tribunaux vont se prononcer, eh bien là, les gens vont dire « Ah ben, le gouvernement, s'il agit en défense des droits collectifs, il va nécessairement empiéter sur les gens de ces droits-là et c'est absolument épouvantable. » Et là, les médias vont embarquer là-dedans, le narratif populaire va devenir ça et ce ne sera plus un débat de société équilibré.
Oh, j'ai confiance en la société d'être capable de prendre des débats intelligents. Là, moi, j'aimerais juste avoir l'information de comment les juges vont trancher avant que je décide si on renouvelle ou pas.
Messieurs, merci beaucoup. C'était un excellent segment de discussion, débat entre Farnell, Morrissey et Lambert Drainville. C'est chaque vendredi à compter de midi jusqu'à vers 12h30. On parlera de Duolingo, Michael Rousseau plus tard. De toute façon, on en a déjà assez parlé cette semaine de cet anglophone qui se vantent de vivre en Montréal sans parler français. Lambert Drainville, toujours un plaisir.
Salut, Ben.
Salut. Farnell Morrissey, merci d'avoir été là avec nous.
C'est toujours un plaisir aussi,
de te parler à chaque vendredi. Ce qui va suivre dans un instant, Boulevard 101, à l'émission On en jase, Mathias Turcotte vient essayer de nous démêler l'annonce de Sonia Bélanger en santé aujourd'hui. Et par la suite, on va parler avec le docteur Pascal Renault qui travaille dans les urgences ici au Québec et qui est président de la Fédération des médecins omnipraticiens pour la région de Québec. Donc, il a assisté à l'annonce. Il suit présentement les fameuses séances là, de formation. Il n'est pas en ligne, il est en présence. C'est pas comme quand Christian Dubé faisait sa loi 2. Et il va nous expliquer. Lui, il me dit par texto, Pascal Cévin, ouais, je trouve des affaires positives, Jeff. Ben, j'ai dit, oh, fort, tu m'expliques ça. Moi, de l'extérieur, j'en vois pas.
Ben, je peux pas croire en même temps qu'ils font une réforme à nouveau. Ben, un genre de réforme, puis qu'il n'y a rien de positif. Fait que je suis bien content de l'entendre. Au moins, ça va être un peu moins mêlant.
Fait que Mathias Turcotte arrive avec ce qu'on a annoncé. Pascal Renault nous analyse ceci. C'est ce qui suit dans l'émission On en jase dans quelques instants. Et Pascal CV va nous informer sur les grosses nouvelles. Ça, c'est un line-up.
On en jase jusqu'à 14h.